Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
Bonjour à tous et bienvenue dans ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. En 2025, l'économie calédonienne a encore souffert des conséquences des émeutes de mai 2024, mais on connaît aujourd'hui les principaux indicateurs pour scruter cette année économique et en mesurer aussi les évolutions. C'est ce que nous allons faire dans cette émission avec notre invité cette semaine, qui est Fabrice Dufresne, le directeur de l'IOM. Bonjour.
Bonjour Jean-François Baudin.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour dresser une sorte de bilan de cette année économique 2025. C'est un exercice auquel se livre l'IOM chaque année, bien évidemment. Vous disposez pour ça, et avant de rentrer dans le détail, d'un certain nombre d'indicateurs qui vous permettent de mesurer l'état de santé économique du territoire.
Oui, là, nous collectons une grande partie d'indicateurs à la fois macroéconomiques et sectoriels. À partir de ces éléments-là, on peut dégager une tendance générale qui se traduit par une stabilisation à des niveaux encore très bas de la situation économique du territoire.
Alors, on sait que régulièrement, trimestre après trimestre, vous publiez ces indicateurs et vous choisissez vos mots pour qualifier l'économie calédonienne, une économie atone. Enfin, voilà, vous avez un vocabulaire très précis. Si vous deviez dresser, résumer finalement ce qu'a été cette année 2025 au niveau économique, quels sont les termes que vous emploieriez aujourd'hui ?
Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt une stabilisation à des niveaux relativement bas pour l'année 2025. Néanmoins, on peut déceler quelques évolutions favorables, notamment dans certains secteurs d'activité.
On va y revenir, bien évidemment, dans cette émission, en scrutant justement ces indicateurs. Alors, parmi les indicateurs sur lesquels vous êtes particulièrement attentif, même s'il est difficile parfois à appréhender, c'est le fameux indicateur du climat des affaires qui sont de, on va dire, l'état d'esprit des chefs d'entreprise. Il a évolué en 2025. Il reste à un niveau faible par rapport aux années qu'on a connues, notamment avant la crise Covid.
Alors, il faut rappeler que nous interrogeons chaque trimestre à peu près 200 chefs d'entreprise permettant...
Ce sont toujours les mêmes ou c'est une liste qui
non,
peut être renouvelée ?
Non, c'est une liste qui est actualisée chaque trimestre. Mais le socle des chefs d'entreprise déjà présents sont bien entendu interrogés à chaque fois. Ce qu'il faut ressortir, là, les résultats sortent depuis le début de cette semaine. Ils sont tout frais. Donc la valeur de l'indicateur du climat des affaires se stabilise à 91. Il faut rappeler à l'ensemble des auditeurs que l'indicateur du climat des affaires avait chuté à hauteur de 66, qui était le niveau le plus bas que la Nouvelle-Calédonie n'avait pas enregistré depuis que l'on réalise ce type d'enquête, c'est-à-dire un peu plus de 20 ans. Donc on est à 91, modulo la plupart des chefs d'entreprise, à peu près les trois quarts qui ont été interrogés, en fait, l'ont été juste avant le 19 janvier, qui est la date de signature de l'accord Élysée-Oudinot.
Parce qu'on sait que les évolutions politiques conditionnent aussi, évidemment, on va dire, l'état d'esprit des chefs d'entreprise. Ils sont très vigilants aux perspectives que pourrait amener un accord politique.
Effectivement, lors de la signature de l'accord de Bougival, du 12 juillet 2000, donc de l'année dernière, donc, on avait, bien entendu, perçu une progression. Alors, il faut rappeler que l'ICA, l'indicateur du climat des affaires, progresse depuis fin juin 2024, depuis les émeutes 2024. Mais là, on voit une certaine stabilisation et il faudra bien entendu être attentif à l'évolution de l'ICA à la fin du premier trimestre 2026.
Sachant qu'il y a des échéances politiques au niveau national, notamment sur l'accord Élysée-Oudinot qui sont importantes et qui pourraient faire bouger cet indicateur du climat des affaires, qui donc, sur l'année 2025, a quand même eu tendance, même si ça n'a pas été spectaculaire, à retrouver un peu de couleur. On peut dire ça ?
Tout à fait. Il progresse, c'est quand même une très bonne chose. Donc le moral général des chefs d'entreprise, donc c'est perpétuellement amélioré tout au long de l'année 2024 et encore plus tout au long de l'année 2025.
Alors on va scruter maintenant plusieurs autres indicateurs qui concernent la production en Nouvelle-Calédonie. On s'aperçoit qu'il y a des secteurs qui retrouvent des couleurs, là encore, qui progressent, d'autres qui restent très stagnants et qui sont dans une situation difficile, d'autres finalement qui ont une année 2025 comme celle de 2024. On va scruter plusieurs de ces secteurs de production. On va commencer évidemment par le nickel, qui est toujours un indicateur très très fort de l'activité économique. Il y a une certaine reprise qu'on note depuis les derniers mois de l'année 2025.
Oui, alors ce qui est, les chiffres viennent juste de sortir, ce qui est quand même extrêmement favorable, c'est la reprise assez significative de la production d'extraction de nickel. On retrouve presque les niveaux d'avant-crise, et ça de manière assez spectaculaire, notamment tout au long de l'année 2025. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément favorable, c'est au niveau de la production, notamment de l'usine du Sud, qui avait déjà retrouvé depuis quelques trimestres son niveau d'avant-crise. Ça sont deux éléments sur la filière nickel qui sont de nature à évidemment donner de perspectives plus favorables pour l'année 2026.
Il y a aussi le cas de la SLN où la production monte aussi en puissance, hein, 32 000 tonnes, je crois, en 2025, oui, 38 000 prévues en 2026. On sait que la capacité nominale, c'est aux alentours de 50 000 tonnes.
Tout à fait. Là, évidemment, la production de la SLN a repris depuis plusieurs mois. Il y a, selon son directeur général, des perspectives favorables, notamment avec la progression du cours du nickel, dont on s'attend à être plus favorable pour cette année 2026.
Avec des annonces aussi sur le nickel indonésien, évidemment, qui pèseront dans cette éventuelle reprise. Alors par contre, du côté BTP, Fabrice Dufresne, là c'est encéphalogramme plat, si je peux me permettre.
Exactement, là. Donc, on suit un indicateur qui permet d'approximer le niveau d'actualité, le niveau d'activité du secteur du BTP. Ce sont les ventes de ciment, elles sont encore au plus bas, elles se sont dégradées encore tout au long de l'année 2025, même si le niveau des prix baisse sur l'année 2025. Mais effectivement, le secteur du BTP peine encore à retrouver des niveaux en progression.
Alors, beaucoup s'interrogent, c'est quoi? C'est une question de calendrier entre les annonces sur les reconstructions des bâtiments publics, des écoles faites par l'État, un certain nombre de reconstructions en cours, et des chantiers qui ne démarrent pas encore. Il y a une question d'ajustement et de calendrier?
Alors, c'est des problèmes de calendrier, hein, puisqu'il y a eu quand même des annonces, notamment sur l'investissement public, avec la reconstruction des bâtiments publics sur la base d'aide et le soutien massif de l'État, qui ont commencé à être réalisé au cours de l'année 2025. Il y a encore des budgets des collectivités locales, et on connaît la situation des budgets qui ont maintenu quelque peu un investissement public, mais tout cela est encore insuffisant pour faire redécoller le secteur du BTP à un niveau plus favorable.
Secteur du BTP qui s'appuie quasiment uniquement sur la commande publique. Aujourd'hui, on sait bien que le secteur privé est en grosse difficulté aussi.
Alors, ce qu'on a sur les chiffres, alors sur l'investissement privé, au regard de la production de crédit, on a plutôt un indicateur favorable et défavorable. Bon, le défavorable, c'est la production de crédit immobilier des particuliers. Alors, elle remonte, mais très timidement. On est très très loin, bien entendu, des niveaux d'avant-crise. En revanche, ce que l'on peut remarquer, c'est la production de crédits alloués aux entreprises sur l'investissement, sur le renouvellement, en fait, de l'outillage ou des biens des entreprises, mais également sur les crédits immobiliers des entreprises, où là, on a une progression non négligeable de la production de crédits.
Quelle conclusion vous en tirez ?
Alors, il y a un indicateur aussi qu'il faut regarder, puisqu'il y a l'investissement. Alors, public, bien entendu, il y aura des perspectives favorables avec le plan de relance, hein, de 2,2 milliards d'euros qui a été proposé par le Premier ministre en décembre de l'année dernière. Il y a l'investissement privé. Du côté des entreprises, il y a quand même une tendance inverse par rapport à ce qu'on avait connu les années précédentes. Et puis, sur la consommation aussi, qu'il faut en parler. Alors, on a des indicateurs qui ne sont pas forcément clairs. Il y en a un sur les paiements et retraits de cartes bancaires qui est un bon proxy. Hein, ça permet d'approximer de manière assez sérieuse le niveau de consommation des ménages. Là, pour l'année 2025, il s'est aggravé de 11,5%, donc une baisse de 11,5%, alors qu'en 2024, par rapport à 2023, on voit une baisse de 8,5%. En revanche, on voit que la production de crédit global de l'ensemble des ménages calédoniens sur les prêts à la consommation est en train de repartir, notamment accentué à la fin de l'année. Donc sur la consommation des ménages, c'est quand même plus des trois quarts du produit intérieur brut. Donc il faudra bien entendu analyser de très très près pour voir l'impact sur le PIB.
Tout ça dans un contexte où l'inflation est restée relativement faible en 2025.
Oui, alors ça, ce sont un des environnements plutôt favorables. On a un environnement inflationniste autour de 1%, qui est la moyenne de l'inflation observée au cours de l'année 2025. Donc cela permet bien entendu à l'ensemble des ménages de préserver leur pouvoir d'achat. D'une part, donc ça c'est un environnement assez favorable.
Et la production de crédit pour les entreprises, vous l'avez dit, a bondi en quelque sorte. Elle est vraiment repartie à la hausse. Ça veut dire que entre ce climat des affaires qui remonte un peu et cette production de crédit qui repart à la hausse, qu'il y a quand même, on va employer le mot parce que je sais que c'est très difficile à dire, mais on va parler de frémissement.
Alors on peut parler de frémissement, oui, de la production repart, notamment celle des entreprises. Juste un chiffre, hein, la production trimestrielle, sont tous les nouveaux crédits qui sont accordés aux entreprises. On est autour de 26 milliards, donc ça c'est la production trimestrielle de décembre 2025, alors que la moyenne de longue période, hein, donc lorsqu'on trace la moyenne sur les années précédentes, on est autour de 42. Donc on avait atteint un plus bas autour de 15 milliards, donc à fin 2024. Donc on peut dire effectivement, c'est un frémissement.
Alors on a parlé de cette production de crédit qui est un indicateur évidemment important pour voir dans quel état d'esprit sont les Calédoniens, qu'ils soient particuliers ou en entreprise. On parlait juste avant des secteurs, des différents secteurs, le nickel, le BTP. Il y en a un qu'il faut scruter aussi, c'est le tourisme et l'hôtellerie, parce qu'il montre aussi l'attractivité du territoire et une certaine reprise économique liée directement au tourisme. Alors là, vous avez aussi des chiffres sur cette année 2025 ?
Oui, alors NC Tourisme, avec l'ISEE, vient de sortir son bilan très récemment sur l'année 2025. Donc très rapidement, on est autour de 58 000 touristes donc en Nouvelle-Calédonie, contre 59 000 en 2024. Donc on peut dire qu'on est plutôt arrivé à stabilisation à un niveau bas. Je rappelle que 2023, on atteignait presque le niveau de retour Covid à 125 000. En revanche, sur le nombre de croisiéristes, on dépasse les chiffres de 2023, hein, puisqu'en 2025, on est autour de 251 000 croisiéristes qui sont revenus en Nouvelle-Calédonie, contre un peu moins de 200 000 en 2024. Donc c'est plutôt assez favorable pour ce secteur-là.
Fabrice Dufresne, donc on a scruté certains secteurs. Vous voulez peut-être dire un mot sur le secteur du commerce, si vous avez des chiffres? On sait que c'est un secteur qui bouge beaucoup aussi, que les commerçants sont inquiets. Est-ce que là, de ce côté-là, vous avez quelques indicateurs, pas particulièrement?
Non, nous ne disposons pas encore de chiffres définitifs concernant ce secteur-là.
Alors cette économie calédonienne qui souffre depuis plusieurs années, elle est soutenue par les politiques publiques et notamment par l'IOM, qui, rappelons-le, joue un rôle de banque centrale, hein, c'est-à-dire qui régule aussi et qui aide les banques dans leur stabilité financière et dans leur liquidité. Pendant cette crise, en 2024, vous aviez pris un certain nombre de décisions, l'IOM, qui se sont poursuivies en 2025, notamment de faire baisser les taux directeurs. C'est une démarche qui est difficile à comprendre pour les personnes qui ne sont pas habituées à ces mouvements financiers. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que ça veut dire quand un taux directeur baisse?
Alors, rappelez deux choses. D'abord sur le rôle de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui est la banque centrale de la zone du Franc-Pacifique, et elle agit à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de donner des liquidités au système bancaire local, permettant aux quatre banques locales de pouvoir prêter et de maintenir le financement de l'économie à la fois en faveur des entreprises et en faveur des particuliers. Ce qui est important de rappeler, c'est que au regard des décisions du Conseil de surveillance, hein, qui est l'organe de gouvernance donc de l'IOM, ce refinancement n'a pas cessé de se maintenir pendant plusieurs années. Et pendant la crise des émeutes, nous avons mis en place une ligne de refinancement exceptionnelle à hauteur de 23 milliards. Donc le niveau de liquidité prêté aux quatre banques, hein, donc il n'a jamais cessé de se maintenir, il s'élève à autour de 120 milliards, qui permet de couvrir à peu près 50% des besoins de liquidité des banques. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, la deuxième action que peut mener l'IOM, c'est les décisions de fixation de taux directeurs. Donc en gros, on fixe en fait le coût du prêt de ces liquidités à ces quatre banques. Et comme nous étions dans un contexte d'inflation plutôt maîtrisé, nous avons entamé les premières baisses de taux directeurs à partir de juin 2024. Et nous n'avons jamais cessé de les baisser à 8 reprises, de telle manière qu'à juin 2025, donc, il y a eu en fait une baisse de 2% des taux d'intérêt directeurs de l'IOM.
Quand on cumule toutes les baisses de taux, hein, 2% au total.
Quand on cumule l'ensemble des 8 baisses consécutives. Ce qui a bien entendu un impact favorable sur le coût du crédit, donc le taux d'intérêt des prêts aux entreprises et aux particuliers, eh bien, s'est traduit à peu près de la même manière, ça dépend des segments, sur des baisses, notamment sur les taux de découvert à la fois des entreprises et des particuliers, à hauteur de 2%.
Est-ce que chaque banque a de la latitude dans les répercussions des taux d'intérêt qu'elle pratique auprès de ses clients, ou est-ce qu'il y a une disposition légale qui fait que quand le taux directeur baisse d'un certain nombre de pourcents, il doit être répercuté du même pourcent sur un taux qu'on prête à un particulier ou une entreprise ?
Non, alors il n'y a pas de disposition légale qui obligerait les banques à baisser le coût du crédit consécutivement à une baisse du taux directeur de l'IOM. En revanche, lorsque le coût de la liquidité que l'on prête aux banques est moins élevé, donc bien entendu, et on l'a vu dans les chiffres, et c'est démontré au travers l'évolution du coût du crédit, on a des baisses de la part des quatre banques locales. Premier élément. Dans le coût du crédit, il n'y a pas que le coût du refinancement. Il y a aussi les conditions d'exploitation de chaque banque, donc qui est un des éléments de fixation du taux d'intérêt, d'une part, et d'autre part, il y a aussi le coût du risque. Donc on a bien vu, à la faveur, mais bien avant la crise, et ça a été amplifié lors des émeutes de 2024, c'est qu'on a eu un taux de créance douteuse, c'est-à-dire des taux de crédit impayés qui se sont fortement élevés. Le niveau est actuellement autour de 9%, qui est le taux le plus élevé de l'ensemble de l'Hexagone et des Outre-mer. Donc, bien entendu, ce coût du risque, donc prêter, c'est un risque qu'une banque doit assumer.
Ça se mesure aussi.
Dans ces conditions-là, elle est amenée parfois à rehausser son taux de sortie de crédit.
Alors Fabrice Dufresne, au regard de tous ces éléments que vous venez de nous donner, comment on peut qualifier cette année 2025 et surtout, qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2026? Je sais que c'est difficile de faire des prévisions, mais on a beaucoup entendu un certain nombre de responsables politiques ou économiques dire que 2026 sera encore plus compliqué que 2025. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est difficile à mesurer? Est-ce qu'on n'a pas les éléments pour savoir exactement aujourd'hui comment les choses vont bouger, même si le plan de relance mis sur la table par l'État devrait permettre quand même un grand bol d'air?
Oui, alors le plan de relance de 2,2 milliards d'euros sur 5 ans, qui a été annoncé par le Premier ministre en décembre de l'année dernière, bien entendu, est de nature à relancer l'économie dans des proportions relativement conséquentes. Le relevé de conclusion à l'issue des discussions qui se sont déroulées donc à Oudinot se matérialise concrètement par une consolidation du budget de la Nouvelle-Calédonie pour 2026 avec des sommes importantes qui vont être apportées. Donc forcément 2026 plus les mesures en fait de désendettement qui sont proposées par l'État vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie, bien entendu, vont permettre en fait de donner un nouveau bol d'air et de relancer au moins sur le secteur public, évidemment, l'économie calédonienne au cours de l'année 2026.
Donc année de reconstruction et année, on pourrait dire aussi de consolidation quelque part.
Alors, est-ce qu'on peut dire rebond, reconstruction, frémissement, relance ? C'est plutôt une relance de l'économie que nous, à notre niveau, on anticipe pour l'année 2026. Il faut regarder aussi les indicateurs de vulnérabilité des ménages, hein, puisque le nombre de chômeurs indemnisés est autour de 3000. On a retrouvé son niveau d'avant-crise, mais en fait, c'est l'extinction ou la fin des périodes d'indemnisation du chômage. Ça cache parfois des situations de précarité nous, on peut mesurer avec l'augmentation des dossiers de surendettement qui sont déposés auprès de l'IOM. Je rappelle que l'IOM assure le secrétariat de la commission de surendettement. Donc on est à 267 dossiers de surendettement pour toute l'année 2025, alors qu'on en avait fait 103 pour l'année 2024.
Alors 267, ça paraît peu, mais c'est l'augmentation qui est significative et qui vous inquiète particulièrement.
Tout à fait. Et on reçoit, alors, cette augmentation du nombre de dossiers de surendettement, elle est perspective depuis le début de l'année 2025. Elle s'est amplifiée tout au long de cette année, mais c'est quand même la variation qui est assez sensible. Donc on a plus que doublé le nombre de dossiers de surendettement. Et on a plus en plus de situations où on est amené, hein, puisque c'est une possibilité d'effacer quasiment l'intégralité de à la fois les dettes et des charges courantes des particuliers.
Fabrice Dufresne, on l'a beaucoup dit, cette crise économique a plusieurs facteurs. Elle a été terriblement évidemment aggravée par les émeutes de 2024 qui lui ont porté un coup fatal, mais elle avait déjà souffert au moment de la crise Covid. On sait aussi qu'il y a beaucoup de réflexions en cours sur une diversification de l'économie. Dans cette période particulière que vit la Calédonie, qui est en train de se reconstruire économiquement, est-ce que vous pensez qu'on va vers de nouveaux paradigmes économiques ou est-ce que finalement on est en train de remettre en place peu ou prou ce qui existait avant en y apportant des ajustements ?
Non, avec la mission interministérielle conduite par Claire Durieux et les discussions qui se déroulent avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, notamment, je prends l'exemple hein, de le changement de dénomination de la direction des affaires économiques, c'est la DECAT. Donc, dans le A, il y a attractivité. Donc, il y a bien entendu des orientations qui visent à diversifier, alors consolider bien entendu les filières solides hein, et notamment celles du nickel
et indispensable. Qui reste indispensable.
Et dans le relevé de conclusion d'Oudino, donc on voit bien qu'il y a un soutien massif de l'État, pas en subvention, mais un accompagnement d'un changement de stratégie dans cette filière-là. Et puis, à l'initiative du gouvernement, donc il y a une volonté, en fait, d'aller sur une diversification donc de nouveaux secteurs d'activité à développer, notamment dans la transition énergétique. Hein, et le gouvernement, avec le soutien de l'État, y travaille. Donc ce sont des éléments, évidemment, porteurs pour accompagner davantage la relance, la diversification de l'économie calédonienne.
Fabrice Dufresne, la Calédonie vit très concentrée sur elle-même en ce moment évidemment et sur ses problèmes pour essayer d'en sortir. Cette reconstruction, cette consolidation économique, elle se fait aussi dans un marché mondial qui est très volatile sur de nombreux secteurs, qui est aussi bouleversé par des conflits régionaux ou internationaux. Est-ce que ça pèse aujourd'hui ? Est-ce que finalement, d'une certaine façon, il y a tellement de choses à faire qu'on est protégé des influences extérieures pour reconstruire d'abord une bonne base économique en Calédonie ?
Alors, protéger, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, ce qui va sanctuariser la relance, c'est vraiment le plan de relance et le soutien massif de l'État, qui, bien entendu, s'accompagne des réformes nécessaires que d'ailleurs le gouvernement a entamé depuis quelques années et qui vont se prolonger dans les prochaines années. Alors évidemment, actuellement, on vit dans un environnement stratégique, géopolitique, extrêmement instable, qui a forcément des conséquences peut-être indirecte, au regard d'une inflation importée, sur le cours du nickel, sur le cours des matières premières. On l'a bien vu avec la guerre en Ukraine. Donc l'impact que cette guerre a eu sur le coût de certains intrants, et donc ça a forcément un impact sur l'inflation. Oui, il peut avoir, en fonction de l'évolution de la conjoncture mondiale, des effets favorables et parfois défavorables sur l'économie calédonienne.
Fabrice Dufresne, le directeur de l'IOM, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur l'état de santé de l'économie calédonienne en 2025 et ses perspectives en 2026, avec évidemment un travail de reconstruction et de consolidation qui continue. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qui sera disponible en réécoute sur notre site internet dans quelques instants. Je vous souhaite une belle après-midi.
Merci Jean-François Bodin et bon après-midi à tous vos auditeurs.